Dès qu'on fait une première fois.
הנה מטף ומניים, שבט ההים גייד. הנה מטף ומניים, שבט ההים גייד. הנה מטף, שבט ההים גייד. הנה מטף. שבט קיים גאיה.
Alors, voici. Hein? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Nous vous proposons de chanter tous ensemble « Ah, qu'il est doux pour des frères ».
Jésus leur parla de nouveau. Il dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.
Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, uni, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire du sens infini qui libère son nom et son il est saint, il est saint.
Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur. Parce qu'à celui qui le cherche vraiment avec foi, Dieu donne une promesse inconditionnelle d'acceptation et il nous délivre de nos péchés. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ancre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu, Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. L'espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ancre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Et plus haut ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ancre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Alors nous allons maintenant chanter un chant pour les enfants en lien avec ce psaume 86,5.
Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Oh yeah, yeah. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Et je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus, saute en l'air jusqu'au plafond et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes.
Bravo, merci les enfants.
On va faire une petite prière pour les enfants, pour qu'ils partent. Seigneur, tu vois ces enfants qui s'en vont dans leur groupe des potes de dimanche. Veuille, Père Céleste, leur accorder d'être en communion les uns avec les autres, avec leurs moniteurs et monitrices. Que ton amour, Seigneur, règne dans chacune de leurs classes. Et nous te remettons aussi leurs moniteurs, ainsi que notre pasteur Célina. Inspire leur Seigneur la force, la patience, la préservation. La persévérance, la douceur dans la transmission de leur message et de leur foi en toi. En Jésus-Christ. Amen.
Oui, Seigneur, on te remercie pour tous ces enfants. On te remet leur moniteur pour ce temps avec eux. Et on te demande surtout de les bénir et que ils puissent vraiment entendre depuis tout petit parler de toi et que ça reste dans leur cœur. Amen.
Vous pouvez rejoindre les potes. Alors, le doute et l'humilité chez les élus de Dieu. Les hommes choisis par Dieu sont parfois des gens qui se présentent humblement, parfois peu sûrs d'eux, qui se sentent ou qu'on croit incapables de servir le Seigneur. Souvent, nous peinons à relever de nouveaux défis parce que nous manquons d'assurance et pensons n'avoir ni les capacités, ni la formation, ni l'expérience requise. Nous sommes intéressés aux personnes suivantes dans la Bible.
Sarah qui a douté de Dieu car elle était stérile et trop âgée. Pourtant, elle est devenue la mère d'une nation et une ancêtre de Jésus en enfantant à 90 ans.
Lecture de Genèse 18, 12 à 14. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils.
Quant à Joseph, qui était le plus jeune des fils de Jacob, il se trouve jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, calomnié, enfermé et oublié en prison, alors qu'il avait fait promettre à l'échanson qu'une fois auprès du Pharaon, il pense à lui, pour finalement devenir, grâce à Dieu, le commandant de toute l'Égypte.
Lecture de Genèse 41, 42 à 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, et sans toi, personne n'élèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. »
Et Moïse, lui qui, après avoir fui l'Égypte, épouse une Madianite, vit comme berger jusqu'à ce que Dieu lui parle dans le buisson ardent. Il se sous-estime en arguant du fait qu'il a de la peine à s'exprimer. Et c'est lui qui fait sortir le peuple élu d'Égypte.
Lecture de Exode 4, 10 à 11. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?»
Le prophète Jérémie qui répond simplement à Dieu qu'il est trop jeune et inexpérimenté.
Lecture de Jérémie 1, 4 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Finalement, David, qui était le plus jeune fils et le moins important aux yeux de son père Isaïe, qui a même oublié de le présenter à Samuel, est devenu le grand roi David, puis souvent pécheur, souvent repenti.
Bonjour. Ce matin, c'est le cœur brisé d'un roi que nous allons entendre. Il s'agit ici sans doute de la plus célèbre histoire de remords et de repentance, celle du roi David. Nous sommes dans la capitale d'Israël, la ville de la paix, Jérusalem. Et pourtant, tout autour de cette ville, la guerre gronde. Les troupes du roi David sont sur le front. Mais lui, en tant que grand chef de cette belle armée, lui, le général-major, traîne au lit dans son luxueux palais. David apparaissait toute la journée, comme s'il s'était endormi sur ses lauriers. Le soir venu, il se lève et c'est là qu'il la voit, la belle Bathsheba. Elle prend son bain au clair de lune. La suite de l'histoire, vous la connaissez sans doute. David fit venir Bathsheba au palais, bien que celle-ci fût mariée à Uri, l'un des soldats. Et il coucha avec elle, et elle fut enceinte. Horreur ! Comment couvrir cette erreur ? Au retour du mari trompé, David fit tout pour qu'il retourne vers sa femme et faire passer l'enfant qui allait naître pour le sien. Mais Uri, avait trop à cœur son rôle de soldat et préférait rester auprès de sa garnison au lieu de rentrer chez lui. Alors, David envoya Uri en première ligne d'assaut lors de la bataille suivante et il fut tué. David put prendre alors Bathsheba pour femme et attendre la naissance de l'enfant. Ce récit est célèbre car il nous montre la profondeur du cœur d'un homme lorsqu'il trompe les autres et lorsqu'il se rend compte qu'il a trompé les autres et s'est trompé lui-même. Le récit de 2 Samuel, où est racontée cette histoire, fait aussi écho au psaume 51, qui lui est étroitement associé. Car David l'a composé au cœur d'une tragédie qui a suivi l'histoire que je viens de vous raconter. Nous allons tout à l'heure écouter ce psaume 51 chanté. Il fait partie d'une des pièces les plus célèbres des chants religieux du répertoire baroque. Il s'agit du Miserere de Giorgio Allegri. Il est traditionnellement chanté le Vendredi Saint dans la chapelle Sixtine au Vatican. C'est un chant magnifique, un chant polyphonique qui mêle en même temps l'amertume de la faute et le réconfort du pardon. Car pour ressentir l'amertume et le réconfort, il fallait que David tombe de son piédestal et se rappelle que le trône sur lequel Dieu l'avait mis était un trône humain. David est le représentant de l'humanité en tant que roi, la vulnérable, la très vulnérable humanité. Si à première vue, après les manigances de David, tout semblait passer inaperçu, c'était sans compter que David était roi devant la face de l'Éternel, à qui rien n'échappe. Et voilà ce que Dieu fit dire à David au travers du prophète Nathan. Nous allons vous lire maintenant 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 23. Puis juste après, nous vous ferons écouter le fameux Miserere Mei Deus, « Prends pitié de moi, ô Dieu », le chant d'Allegri, sous une forme raccourcie, et j'y ai rajouté les paroles en français du psaume 51 pour suivre un peu pour vous.
Le Seigneur envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit, « Dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux, de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son visiteur. David fut surpris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. »
« Celui qui a fait cela, c'est toi, » répliqua Nathan. Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai choisi comme roi d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques de Saoul. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saoul. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri, le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites, puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je ferai venir le malheur sur toi. du milieu de ta propre famille, sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour.
À la vue de tout ton peuple.
Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. David répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. Seulement, dans cette affaire, tu as gravement offensé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. » Puis Nathan retourna chez lui.
Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba, la veuve d'Uri, l'enfant que avait donné David à Bathsheba. David supplia Dieu en faveur de l'enfant, et il se mit à jeûner. Et quand il rentrait chez lui, il passa la nuit couché à même le sol. Les plus respectés de ses serviteurs vinrent auprès de lui et ils l'invitèrent à se relever, mais il ne le voulut pas et il refusa même de manger quoi que ce soit avec eux. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David car ils se disaient « Tant que l'enfant était en vie, le roi ne voulait pas tenir compte de ce que nous lui disions. » Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il pourrait commettre un acte désespéré. David, les voyant chuchoter entre eux, comprit ce qui était arrivé. Et il leur demanda, « Est-ce que mon fils est mort ?»« Oui, il est mort, » répondirent-ils. Alors David se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. À son retour chez lui, il ordonna qu'on lui serve un repas et il mangea. Ses serviteurs l'interrogèrent, « Que signifie cette façon d'agir ? Lorsque ton fils était encore vivant, tu jeûnais, tu pleurais. Et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu te remets à manger. » « Mais oui, répondit David, tant que mon fils était vivant, j'ai jeûné et pleuré, me disant, « Qui sait ? Le Seigneur se montrera peut-être indulgent à mon égard et il permettra que l'enfant survive. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Jamais je ne pourrais le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre et ce n'est pas lui qui reviendra vers moi. »
Thank you.
Nous voilà dans un dialogue profondément humain, profondément divin. Il n'y a pas plus vrai que ce moment-là, des moments de mise à nu, après avoir revêtu tant de masques, tant de rôles, tant de mises en scène. Car c'est une véritable mise en scène montée de toutes pièces par David que Dieu va déjouer. Et c'est sans doute pour cela que Nathan vient auprès du roi avec lui-même une mise en scène. Il vient lui raconter une histoire qui provoque un sentiment de colère, d'injustice. « David, il faut que je te raconte quelque chose de profondément choquant. » Un riche propriétaire de bétail décide d'offrir en rôti l'animal de compagnie de son pauvre serviteur. C'est ignoble. Et David tombe dans le panneau. Il se met en colère contre le riche et qu'il souhaite même le voir mettre mis à mort, tellement l'acte est monstrueux. Oui, monstrueux. Mais il y a plus monstrueux, David. C'est ta mise en scène à toi. David, dans cet épisode, est devenu comme un metteur en scène pour maquiller, masquer sa faute, sa faille, sa vulnérabilité d'homme qui s'est laissé corrompre par les excès d'un roi, par la convoitise d'une femme, par l'abus du pouvoir. Derrière le masque, David est tombé en disgrâce. Car voyez, ce n'est pas au champ d'honneur qu'il est tombé comme ses autres soldats. C'est en disgrâce, oui, à l'abri des regards entre les murs de son palais. Il n'y avait rien d'honorable, rien de louable, rien de royal dans l'attitude de David. Il a fait preuve de toute sa lâcheté. Alors voilà, les lumières du théâtre s'allument pour nous montrer que le grand roi n'était qu'un homme qui tirait toutes les ficelles du spectacle. David tirait les ficelles pour commettre des atrocités, au point que David en a épouvanté le Seigneur. La phrase qui est à la fin de 1 Samuel 11, mais du coup qu'on n'a pas lu, c'est au tout début, on dit « David fit ce qui déplut au Seigneur ». Et déplaire ici, en fait, est un mot très fort. Il veut dire que Dieu a commis quelque chose qui a comme donné la nausée à Dieu, tellement c'était ignoble et indigne de lui. Dieu rappelle alors à David qu'il lui a tout offert pour réussir et qu'en retour, David a manipulé ses ressources pour fabriquer une vaste escroquerie. Cette nuit, avec Bathsheba, va tourner au drame. Et les conséquences seront graves. La sentence tombe. Voici, la violence ne quittera pas la maison de David. Elle se répercutera de génération en génération. L'épée que David a fait utiliser contre Uri se retournera contre sa propre famille. Le mal que David a camouflé par la nuit, ce même mal sera commis contre lui et sa famille en plein jour. C'est une véritable catastrophe qui s'annonce. Le violent inceste entre deux des enfants de David, Amnon et Tamar, juste après au chapitre 13, montre la promptitude des graves conséquences de l'acte de David. Voilà la terrible histoire humaine qui se déchaîne. Les êtres humains continuent sans cesse de perpétrer des mises en scène perverses à tout prix. Et David, roi d'Israël, roi de l'humanité selon Dieu, a lamentablement échoué. Alors qu'il avait reçu tout ce dont il avait besoin pour être un grand roi, Dieu l'avait comblé de richesses, de terres, de promesses. Le descendant de David régnera sur le trône éternel, lui avait-il dit au chapitre 7. Dieu, il était tellement fier de David. Il avait vraiment tout pour devenir un grand roi, un roi modèle. Quel dommage, quel beau gâchis. Alors quoi? Est-ce que la promesse de Dieu doit finir à la poubelle pour autant? Eh bien non. Dieu va se saisir du roi modèle pour modeler son cœur. Un cœur qui tout à coup est brisé. David dit cette phrase saisissante dans le psaume 51 et on l'a entendu dans le chant. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et broyé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est celui d'un cœur brisé. Il y a quelque chose de beau, mais aussi de terrible dans ces mots. Terrible parce que je me demande si notre souffrance est ce qui plaît à Dieu. Autrement dit, Dieu aime-t-il nous voir souffrir ? Je vous avoue que c'est une question qui m'habite, qui parfois me torture. Parce que moi, je crois en un Dieu profondément bon. Mais en même temps, je ne peux pas écarter de ma pensée que la souffrance fait inéluctablement partie de la vie de chacun. Elle est là comme une ombre qui se traîne à nos pieds. Et le seul moyen d'échapper à cette ombre, quand on y réfléchit peut-être un peu trop vite, c'est d'éteindre la lumière et d'entrer dans les ténèbres. Et c'est sans doute ce qu'a fait David ici. Préférer entrer dans les ténèbres pour ne plus voir l'ombre de sa faute. David était un roi choisi par Dieu selon son cœur, comme nous le dit aussi avant dans le prophète Samuel dans son livre. David, en entrant dans son rôle de grand roi d'Israël, inscrit quelque chose de fondamental dans sa stature royale. Il est le représentant de l'humanité voulue par Dieu. Si Dieu avait choisi David, c'est parce qu'il y avait quelque chose de proche de l'humain originel. Mais cette caractéristique s'est perdue alors que David est devenu un roi victorieux. Il lui faudra alors être presque anéanti pour la retrouver. Car c'est cette caractéristique qui lui permet réellement d'être un grand roi. Cette caractéristique, c'est sa vulnérabilité. David, comme tant d'autres personnages iconiques dans la Bible, fait face ici à sa fragilité, à la douleur de la vulnérabilité, comme nous l'ont appelé Zéna, Jacques et Thierry juste avant. David, quelques années auparavant, était le petit dernier d'une grande famille. Il n'avait pourtant aucune importance aux yeux de son père et de ses frères. David, alors petit berger, courait les champs pour veiller sur son troupeau, le soigner, le protéger. Personne ne le regardait, sinon Dieu. Et c'est cet homme-là en qui Dieu a vu un roi selon son cœur. Un jeune homme qui a traversé tant d'épreuves pour connaître la réussite dans sa royauté. Son rôle de roi exigeait de lui de prendre la tête de l'armée d'Israël. Mais alors qu'il est au sommet de son pouvoir royal en tant que chef des armées, sa seule décision dans la campagne militaire qui marque le début de 2 Samuel 11 sera de maquiller l'exécution de Uri, un soldat de ses propres rangs, pour camoufler l'adultère qu'il a commis avec la femme du soldat. Et pourtant, le regard de Dieu n'avait pas quitté David, qu'il soit berger ou qu'il soit roi. Et même si personne n'avait vraiment le droit de regard sur ce que faisait le roi, Dieu, lui, souverain, regardait. Et c'est ce qu'il vit était affligeant. Et il le fit comprendre à David. La fragilité, les fautes, les limites de David lui ont alors explosé à la figure. Et son cœur s'est ouvert comme une ligne de faille, une fracture qui s'ouvre, prête à engloutir le monde qu'il s'est construit. Lorsque la lumière est pointée sur nos zones d'ombre, sur ces choses en nous dont nous ne sommes pas fiers, au point de vouloir les planquer très profondément en nous, comment peut-on réagir ? Eh bien, il n'y a pas 36 réponses. Soit on fuit, soit on reste. Soit on ferme les yeux, soit on les garde grands ouverts. Alors lorsque Dieu montre à David ses erreurs, cette fois, David aurait pu fermer les yeux ou accuser la femme qui aurait accusé le serpent, comme ça s'était passé avec Adam en Genèse 3. Non, Cette fois, David va faire preuve de courage. Et voilà ce qu'il dit, de nouveau au psaume 51. « Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Purifie-moi de mon péché, car j'ai toujours mon péché devant les yeux. » Cette phrase de repentance paraît presque anodine, pour autant que la repentance peut vraiment être quelque chose d'anodin. Purifie-moi de mon péché. Quelque chose de banal lorsqu'on demande pardon à Dieu, peut-être, mais non. Et comme on choisit d'avoir les yeux ouverts ce matin, j'espère, profitons-en pour examiner de plus près ce que David dit ici. En fait, le mot « purifier » en hébreu se dit « taher ». Et comme souvent en hébreu, les mots ont différents sens qui se croisent pour amener plus de profondeur dans leur sens. « Taher », cela veut dire à la fois « purifier », mais aussi « l'éclat et la clarté ».« Purifie-moi de mon péché, car j'ai toujours mon péché devant les yeux ». Cette phrase prend alors ici un sens plus lumineux. « Fais briller la lumière, car j'ai ma faute devant les yeux ». David choisit cette fois la lumière plutôt que l'obscurité. Il accepte de voir en face ce qu'il a fait de sa vulnérabilité et d'en accepter la souffrance. Il ne choisit pas de se cacher, de tirer les ficelles dans l'ombre pour orchestrer de terribles mises en scène pour tuer tous ceux qui pourraient mettre à mal les faux-semblants. David va même plus loin. Il accepte ses erreurs, que ses erreurs aient des conséquences, et il ne le refuse pas. Et ce qui lui donne la force de vivre cela, c'est cette vulnérabilité. La vulnérabilité qu'il peut vivre auprès de Dieu. Dieu lui rappelle ici qu'il n'est pas seul. C'est vrai, s'il laisse corrompre sa vulnérabilité, il y aura des terribles conséquences sur les autres, sur lui, dans sa relation avec Dieu. Mais il lui rappelle aussi que la vulnérabilité est plus facile ou peut-être moins difficile à vivre lorsqu'on la vit sous le regard de Dieu. Car son regard sur nous change le sens de notre vie. C'est sans doute pour cela que David supplie Dieu de ne pas le rejeter loin de lui. David, il ne veut plus se cacher. Il va avoir le courage d'assumer, de tout assumer. C'est la force de la vulnérabilité. Parce que même si cela fait mal, et parfois même atrocement mal, la fragilité est plus un appel à la vie qu'à la mort, à condition de pouvoir s'offrir tel quel à Dieu. Le cœur brisé d'un homme, c'est le sacrifice que Dieu reçoit en tout premier. C'est à ce moment-là que David prend vraiment sa place de roi des hommes. Il n'est plus le petit berger anonyme. Il n'est plus non plus vraiment ce grand roi conquérant du monde. Il est entre les deux, dans cet entre-deux qui crée souvent de l'inconfort. Être un roi, selon le cœur de Dieu, c'est être dans cet entre-deux. Vivre dans l'entre-deux, c'est difficile. Parce que c'est comme si nous étions toujours tiraillés entre la lumière et les ténèbres, entre choisir de vivre masqués et de s'offrir nous-mêmes tels que l'on est dans nos grandeurs et dans nos failles. Les tentations sont nombreuses de fuir quand on est tiraillé. On aurait envie de se cacher, mis en difficulté dans ce tiraillement, dans cet entre-deux. Alors quand on prie le Notre Père, on dit « Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Car être profondément vulnérable et vivre au cœur de sa vulnérabilité, c'est faire briller quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait nous dépasser. David, après cet épisode, devra dépasser la fracture qui s'est ouverte dans sa vie, en lui. Entre lui et son peuple, entre lui et sa descendance, entre lui et Dieu. Les conséquences, les problèmes, les meurtres, les trahisons ne cesseront malheureusement pas de sitôt. La tragédie humaine n'a toujours pas pris fin en apparence. Mais à y voir de plus près, dans la vie de David, une autre page de l'histoire humaine s'écrit, celle d'un message de paix. De David et Bathsheba, un autre fils naîtra, Salomon. Shlomo en hébreu, un mot qui signifie la paix, shalom. Mais bien plus que la paix, shalom signifie aussi l'achèvement, la limite donnée. La fin de la terreur est annoncée par la venue de la paix. C'est le sens de la vie du prince de la paix. Oh non, pas tant Salomon qui marchera plus ou moins dans les mêmes chemins escarpés que son père, mais le prince de la paix incarné en Jésus. Fils du Dieu très haut, incarné dans la vulnérabilité humaine. Lumière du monde que l'obscurité ne peut étouffer. Il est la parole de Dieu donnée à l'homme pour renouer le dialogue dans ce monde, y amener le shalom, la paix, comme point d'orgue, comme point final. La mise en scène s'arrête ici, clap de fin. La paix nous permettra enfin d'entrer dans le repos. Après avoir sillonné de long en large, du côté cour au côté jardin, notre scène de la tragédie humaine. La paix nous amène à l'achèvement de la violence humaine pour entrer dans un royaume où la force vulnérable qui se vit, s'accepte et s'aime telle qu'elle. Alors, c'est vrai, il faut bien du courage pour l'accepter. L'accepter, cette vulnérabilité de la part des autres, mais d'ores et déjà de nous. Car c'est là, en nous, en moi, en nous, que cette vulnérabilité et cette paix du monde commencent. Pas parce que moi, je l'ai décidé, hein, mais parce que c'est l'histoire que Dieu écrit. Un soir, en haut, dans une chambre haute, entouré de ses disciples, Jésus finissait son dernier repas, le repas de la Pâque, avant d'entrer au cœur de la nuit pour y souffrir. Au cœur de la nuit et de nos nuits. Je nous souhaite que les paroles qu'il a données à ce moment-là puissent nous faire prendre la mesure de la profondeur, mais aussi de la force de nos vulnérabilités. Je nous souhaite de trouver le courage de garder les yeux ouverts en faisant résonner en nous ces mots de Jésus qui ont marqué son départ ce soir-là vers la croix. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés alors. Ne soyez pas effrayés. Que la paix soit avec vous. Amen.
Tante Sainte Cène. En prenant la Sainte Cène, nous nous rappelons que le Christ et le Saint-Esprit sont en nous. C'est un sacrement que nous rassure et nous rappelle la confiance que nous avons déposée en lui. Par son sacrifice, le Christ a pris sur lui tous nos péchés. Son corps et son sang nous sont représentés sous du pain et du vin. Il est notre nourriture spirituelle depuis sa venue.
Je lis l'institution dans Marc 14, 22, 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette vie que tu nous offres, même si elle est vulnérable, même si elle est parfois douloureuse. Mais à l'intérieur d'elle, tu nous offres toute l'espérance qu'on peut y attendre et y voir ta grandeur. Je te prie Seigneur que par ce moment de scène, tu puisses venir nous encourager et nous fortifier. Amen.
Je vous lis un poème de Marion Muller-Collard dans Éclat des Évangiles. Comme une mère, tu nous nourris, car tu nous aimes et ton amour est nourriture. Comme pour Élie, cet amour ne se dit pas à grand fracas d'orage, de feu ou de tempête. Il tient en un murmure, le souffle d'un silence ténu. Il convoque notre écoute et notre fidélité. Comme Pierre, il nous arrive au plus vif de ta présence de ne plus douter de nous, de ne plus douter de toi, et nous nous endormons avant le chant du coq. Donne-nous de garder dans nos bouches ta parole, dans la peau ta présence, afin que nous fassions mémoire de ton courage. Nous ouvrons un temps de prière maintenant. Ceux qui veulent prier à voix haute, n'hésitez pas à me faire un signe, je tendrai le micro. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous joignons à tous ceux qui prient pour l'Église persécutée, en te remettant les chrétiens d'Afghanistan et les femmes afghanes. Nous te prions de les garder, fortifier leur foi, de les réconforter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Joanne vient.
Bonjour à chacun. Alors, je vais passer les quelques annonces par ordre chronologique pour ceux qui vont faire l'affichage derrière, comme ça, ça sera plus simple. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la compagnie de la Marelle, vous avez l'occasion d'aller au CEPOM à 17h sur un sujet. Le titre, c'est « Silence, on frappe », c'est sur les violences domestiques. Donc si ça vous intéresse, c'est aujourd'hui à 17h au CEPOM. Mardi 15 novembre à 20h15, la rencontre de prière communautaire ici à l'église. Ce mercredi 16 novembre, c'est le CTT. Donc CTT, c'est le groupe de jeunes chrétiens tout-terrain qui se réunit chaque mercredi soir. La soirée est de 20h à 21h30 et c'est pour des jeunes de 15 à 25 ans. Ensuite, vendredi 18 novembre à 17h, le KT, et ça c'est le groupe de jeunes plus petits, 11-15 ans, les adolescents. Ensuite, vendredi 25 novembre, vous avez reçu, nous avons un colloque, donc qui est notre assemblée générale. Vous avez reçu 2-3 documents que je vous invite à lire et pas attendre la dernière minute, notamment 2 sujets qui sont importants, donc le groupe d'évaluation et d'accompagnement des pasteurs avec le cahier des charges que nous désirons valider, et puis aussi la composition de ce GEAP. Et puis un deuxième point notamment important qui est sur les finances, avec les excédents, l'excédent que nous avions l'année passée, pour lequel nous vous laissons nous faire des propositions jusqu'au 21 novembre, dans le lundi, de manière à ce qu'on puisse faire au niveau du conseil une proposition lors de ce colloque pour la répartition de cet excédent. Dimanche 27 novembre, alors il y a un concert de Noël avec le chœur de la Printanière, donc qui sera à 16h, sauf erreur sur le mémo, c'était marqué 17h, donc notez bien que c'est 16h ici, dans nos locaux. Toujours le 27 novembre, vous pouvez aussi noter, nous aurons la visite des saillants. Donc les saillants, c'est nos envoyés de notre église qui sont en Italie et qui nous feront la joie d'être parmi nous ce dimanche 27 novembre. Et puis toujours dans des visites, nous aurons aussi les Pioux qui seront là le dimanche 4 décembre et qui participeront au repas communautaire qui suivra le culte, qui sont aussi des envoyés avec un ministère en France et qui arrêtent leur ministère après 34 ans. Ensuite, la fête du fil d'argent qui aura lieu le jeudi 8 décembre à 11h30. Donc c'est une fête qui est ouverte à tous. Il y aura un apéritif, repas de midi et un après-midi avec la conteuse Marie Ray, qui est la fille des Bachers pour ceux qui veulent un peu se remettre dans le contexte familial, pour ceux qui connaissent les Bachers. Les inscriptions pour cette fête se font avant le 5 décembre auprès de André Dufour ou Marianne Pfund. Et je crois que j'ai vu André ici, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis, comme chaque dimanche, on vous remercie aussi pour votre générosité que vous pouvez exercer au travers de mettre un don dans le petit panier qui est à la sortie via un bulletin de versement vous trouvez aussi à la sortie, ou bien Twint avec le QR code que vous avez derrière. On vous remercie infiniment.
Merci aussi au groupe Louange qui va nous interpréter un dernier chant. Seigneur, fais de nous.
Merci.
C'est le moment de la bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Que vous puissiez aller dans votre semaine, dans sa présence, que vous puissiez vraiment recevoir sa paix. Amen. Bon dimanche.